Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Chaque semaine, en fait presque à chaque émission, je vous promets des rencontres intéressantes, des découvertes d'œuvres, de lieux ou de personnes qui nous font sortir de nos habitudes, de nos routines, de nos vies parfois trop simplettes, souvent un peu étriquées, un peu limitées. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais puisque je vais avoir le plaisir et l'immense honneur de vous faire rencontrer une femme absolument extraordinaire, hors du commun. Je sens qu'elle n'aime pas, elle n'aimera pas que je dise ça avec autant d'admiration. Mais lorsque vous l'entendrez, je crois que vous partagerez comme moi ce sentiment. Avec elle, nous allons parler de culture. Peut-être de culture physique, mais aussi de cultures au pluriel, de notre rapport au monde, de nos existences. Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons parler à une championne du monde, alors allons-y, top chrono. Bonsoir Barbara Humbert.
Bonsoir, bonsoir Claude.
Merci de nous recevoir chez vous, dans le Val d'Oise. Et pour commencer, pardon de commencer par ça, mais pour que le monde qui nous écoute comprenne bien qui vous êtes et ce que vous êtes, je vous demanderai tout simplement votre date de naissance.
Mais je suis née le 9 juillet 1939 à Achern, A-C-H-E-R-N, en Allemagne, en Baden-Württemberg, c'est dans le sud-ouest de l'Allemagne.
Voilà qui est précis. Le 9 juillet 1939, vous avez donc 83 ans. Vous n'avez que 83 ans. Des dames de 83 ans en pleine forme, il y en a de plus en plus. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Mais vous, vous avez une particularité, c'est que vous avez couru plus de 50 marathons dans le monde entier. Et pour qu'on mesure bien à qui on a affaire, il y a seulement quelques semaines, en mai dernier, vous avez fait une course de 24 heures à Brive-la-Gaillarde et parcouru pas moins de 125 kilomètres, ce qui vous a valu de battre le record de plus de 20 kilomètres, le record du monde de votre catégorie. Alors, cette petite présentation est en fait. Madame Barbara Humbert, 83 ans, née en 39 en Allemagne et qui vient de courir 125 kilomètres. Lorsque quelqu'un marche 4 ou 5 kilomètres un dimanche après-midi, il semble avoir fait le tour du monde. Mais vous, vous faites ça comme une fleur. Alors comment vous allez, Barbara Humbert?
Mais pour l'instant, je vais très bien. Je dis pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais, arrivé à un certain âge, la vie, la santé peut nous jouer des tours imprévus et imprévisibles. Donc, on s'entraîne, on continue pour le mieux et pour tenir le plus longtemps possible et pour montrer qu'on peut rester jeune tout en devenir plus âgé. En gagnant en âge, mais en restant quand même les pieds bien vaillants et jeunes, je dirais jeunes.
Le cœur aussi. On va revenir sur tout ça. Comment est-ce qu'on se maintient dans cet état-là? Comment on garde la santé? Comment on maintient sa forme et son esprit? Vous avez, je le disais, à votre actif plus de 50 marathons, ce qui est quand même assez...
54
marathons, donc
plus
les autres courses. Mais j'aimerais qu'on fasse tourner le film en arrière et qu'on revienne aux premières fois. J'aimerais, si vous voulez bien, que vous nous parliez de vos premières fois, de vos premières courses, les 10, les 20, et puis on en viendra à votre premier marathon. Barbara Humbert.
Mais je me souviens très bien, c'était en 1982, ma fille est née c'était avant son bac, elle a fait une course d'endurance dans le parc de l'école où elle était à l'époque, c'était la Légion d'honneur de Saint-Denis, et puis j'ai dit, tiens, montre-moi la respiration, comment courir. Et j'ai fait le tour de Bouffémont. On habitait à Bouffémont à l'époque, c'est le tour de Bouffémont. Après, je suis allée jusqu'à Daumont. Et là où maintenant est la 184, c'était un chemin où juste deux voitures pouvaient se croiser. J'allais jusqu'à Belleville, je crois que c'était Belloy en France. J'ai fait un semi-marathon de Daumont-Belloy en France, revenir donc par Bayet, enfin un 21 km, ce qui est maintenant une route à quatre voies, impressionnant quand je vois ça de nos jours, ou à l'époque c'était très gentil à l'époque, c'était beaucoup plus
campagne,
beaucoup plus calme tout ça que maintenant où une voiture suit l'autre, où c'est vraiment la vitesse à
chercher. Alors ça c'était la première course.
Les entraînements, dans les années 82, 83. Et mon premier marathon, c'était en 84.
C'était où ?
C'était à Paris. C'était le marathon de Avon, A-V-O-N, donc cette société cosmétique américaine, qui a organisé des marathons pour femmes, uniquement pour femmes, dans les capitales, pour justement permettre aux femmes de
parce qu'il faut préciser que pendant des années les marathoniennes n'existaient pas aux Jeux Olympiques, aux Olympiades, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que les hommes.
Mais au marathon, je crois qu'au marathon c'était aux États-Unis où une femme s'est fait paraître pour un garçon pour pouvoir courir, elle a été vraiment attaquée, agressée. Donc en 84, à Paris, avant, donc à organiser ce marathon pour femmes. Et c'était, je me souviens, deux boucles de 21 kilomètres. Ce n'était pas encore le grand circuit. Et j'étais complètement, donc, novice. Et n'ayant pas de club je m'entraînais tout seul comme ça, gentiment. Je l'ai fait quand même 4 heures, je crois que c'est 4 heures et quelques, que c'était pas 4 heures, c'était plus de 4 heures, je ne sais plus exactement. Mais, et c'était assez fatigant. Mais ça m'a donné quand même l'envie de continuer après la première fatigue finie. En général, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de coureurs qui disent, après une grande course, ils disent, c'est la dernière. Et quelques jours passés, les fatigues passées, on dit, tiens, on peut quand même recommencer et faire d'autres. Et comme ça, on va de course en course, d'année en année, et on continue.
Est-ce que vous avez le souvenir des sensations que vous aviez à l'arrivée, lorsque on coupe on passe la barrière
l'arche. C'était voilà. Beaucoup plus simple, voilà, à l'époque. Ça. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tapis, il n'y avait pas d'arche, il n'y avait pas de chronomètre. Il y avait tout le monde, ça sifflait et tout le monde partait. Ceux derrière ou ceux devant, c'était le même temps. Donc, quand on passait derrière, on perdait toujours 10, 15, je ne sais pas combien.
Mais on vous remettait quand même une médaille.
On avait la médaille, bien sûr. Et pour dire mes premiers marathons, je pleurais d'émotion à l'arrivée. À l'arrivée. Après.
À quoi vous pensiez à ce moment-là?
Oh, je ne sais pas si je pense à quel point c'est quelque chose. On était tout simplement heureux et moins fatigués que maintenant. Bon, on était heureux, mais on aurait pu continuer. Mais c'était la course et la jeunesse qui voulait qu'on aurait pu aller plus loin. Et c'était l'émotion de l'avoir fait cette épreuve qu'on s'est imposée. Et on était en communion avec d'autres. On a vécu la même émotion.
Quelqu'un vous attendait la première fois?
C'était mon mari qui m'accompagnait pour aller, qui m'attendait au retour. Mais souvent, on est arrivé pour les autres marathons à Paris, 85 par exemple, ou les autres. il n'y avait pas de barrière. C'était comme, il n'y avait que 12 000 personnes. Donc, on arrivait, j'arrivais derrière quand ça siffle devant. Donc, j'enlevais mon survêtement, je cavalais pour rattraper les derniers, pour aller avec les autres. Mais là, j'ai perdu toujours 10 ou 15 ou peut-être même 20 minutes sur le temps, sur mon temps réel par rapport au temps officiel.
Qu'est-ce que ça stimulait en vous, l'arrivée du marathon? Est-ce sur le plan corporel, évidemment, un peu de douleur, mais une stimulation positive?
Pas de douleur, non, pas de douleur, mais vraiment certainement une satisfaction sans vraiment se rendre compte. Je pense que j'ai jamais réfléchi sur tout ça. J'avais envie de faire un marathon comme beaucoup d'autres, essayer, re-essayer, continuer dans l'épreuve et puis éprouver cette satisfaction, mais simple. C'était une joie d'avoir été capable de le faire avec les autres.
Et alors, ça vous a donné envie de continuer et chaque année, vous en avez fait un, deux. Je rappelle que le marathon, c'est quand même 42 kilomètres, 195 mètres. Quelquefois, ces 195 mètres sont assez difficiles à parcourir. Vous en avez fait bien d'autres et dans le monde entier, non?
Oui. Au début, c'était un marathon. Il faut dire que j'avais quand même les enfants, la maison, la vie d'une femme à la maison qui fait ses courses, qui fait sa cuisine, les réceptions et les enfants avec les obligations des enfants et pour les enfants. Et puis, donc, on se faisait en général au début un marathon, après c'était deux, c'était trois par an. À un moment donné, j'ai arrêté pendant 90 quand même, jusqu'à 94 où j'ai repris le marathon et le semi-marathon à Paris. J'avais des problèmes juste dans les hanches. Je me suis laissée impressionner par cette douleur, tout en m'entraînant, continuant. Et il faut dire maintenant, il ne faut pas se laisser impressionner par des douleurs comme ça. On essaie de les réduire, mais on continue l'entraînement, et puis ça part tout seul.
C'est parce qu'on ne court pas qu'on a mal.
Je pense que si on ne court pas, ça n'arrange pas les bobos, les douleurs. Moi, j'avais des pieds foulés, j'ai passé mon pied dans des glaçons, dans des sacs avec des glaçons, et j'ai continué à courir le lendemain. Et je me souviens, on était en vacances à Argelès en été, et il y avait donc un groupe de jeunes coureurs. Donc, il y avait un coureur qui était un champion du 5000 mètres de Paris, de français, je ne sais plus son nom. Et là, on a fait aussi de la course à pied. J'étais dans le sable aussi. J'étais avec les hommes. J'arrivais à suivre. Et là, je me suis foulé le pied. Ma fille, qui était en médecine en première année, elle a dit, tu mets le pied dans des glaçons, dans un sac en plastique glaçant. Et puis ça s'est arrangé, j'ai continué. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits bobos, de chevilles ou... Non, je n'avais que les genoux, mais c'était plutôt les chenilles, chevilles ou la hanche. Et puis ça part tout seul. Les étirements, on fait des étirements, il n'y a que ça.
Avant, après?
Avant, je suis là trop, j'ai la flemme. Après, avec les autres coureurs dans la forêt de Montmorency.
Quels sont les beaux marathons que vous avez courus, ceux qui vous restent quand même vous avez couru à Athènes, vous avez couru à New York, vous avez couru à Rome peut-être?
Mais il y a chaque marathon. Il y reste toujours des souvenirs. Chaque marathon est différent. Il y a toujours des extraits de marathons qui restent. Je me souviens Prague, c'est le pont là. Je n'ai pas passé dessus, mais c'est le pont
Charles V,
je crois, à Prague. Et ce sont des souvenirs. Et puis les noms imprononçables tchèques où je me suis perdue dans la ville. Je ne savais pas comment me retrouver l'hôtel. Ça c'était impressionnant. Ça m'est resté. C'était à Prague. Oui, et à Prague, j'ai cherché aussi des cristaux, des vases de cristal pour les enfants. parce que c'est la
le Bohème, cristal donc, de Bohème.
Le cristal de Bohème, donc j'ai pris pour chaque enfant, j'ai pris. Et j'ai passé des heures aussi à chercher des t-shirts pour les petits-enfants. À l'époque, je partais avec, ou alors quand j'étais à Stockholm, à Helsinki, c'était à Helsinki, où j'étais au marché Lapin, où je cherchais des affaires de donc des lapins de pour les enfants. J'ai toujours dépensé tout l'argent que j'avais emporté pour des cadeaux pour les enfants.
Merveilleux, merveilleux.
Oh, mais puis... ça fait plaisir. Et ça leur faisait plaisir à l'époque aussi, parce que c'était jeune, petit, tout était nouveau. Et puis la mère ou la grand-mère qui court, c'était encore assez nouveau, pas très courant. Maintenant, on est blasé, tout le monde est blasé.
Je crains que dans les au départ du marathon, il y en a quand même pas beaucoup qui aient plus de 70 ans.
Je crois qu'il y a quand même de plus en plus de femmes, mais qui n'osent peut-être pas. Bon, à Paris, je suis la doyenne, où j'étais depuis quelques années la doyenne, parce qu'il y a peut-être il y avait une Anglaise, mais qui était un peu plus âgée que moi, donc. Mais peut-être que les grandes coureuses comme les japonaises ou les américaines ne participent pas. Moi je reconnais toujours celles qui savent mieux faire que moi pour apprendre, pour les admirer. Il y a l'américaine sœur Madonna Bada, qui a maintenant, je crois, 91 ans, qui est extraordinaire, qui fait des triathlons, qui a fait Iron Woman à Hawaï X fois, mais c'était une sœur. Alors je me suis dit, sœur.
Une bonne sœur.
Une religieuse. Donc je pense qu'elle n'avait pas besoin de faire du ménage, elle n'avait pas besoin de faire des courses, ou la popote, n'avait pas d'enfant. Alors elle n'avait qu'à courir religieusement. En priant, moi, je reconnais qu'en courant, je pense que je médite, je réussis à ne à pas penser. Et je me dis, après un certain temps, tiens, tu n'as rien pensé. C'est une forme de méditation, donc on exclut aussi tout ce qui peut empêcher la profondeur d'une certaine pensée. De la vie de tous les jours, ça peut la renaître par cette méditation à la course.
La course comme méditation. On va y revenir, chère Barbara Humbert. On va prendre peut-être un instant de musique qui va nous ramener peut-être à votre origine, à votre prénom aussi. J'aimerais qu'on écoute Barbara dans Göttingen.
Gewiss, dort gibt es keine Seine und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen blieben von Göttingen. Paris besingt man immer wieder, von Göttingen gibt's keine Lieder. Und dabei blüht auch dort die Liebe in Göttingen. Mir scheint, wir sind weit schlechter kennen in puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz in Göttingen. Ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginn in Göttingen. Gewiss, dort gibt es keine Seine und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch sah ich nur so schöne Rosen in Göttingen, das Morgengrau ist nicht das gleiche, die Beiverlen, das Silberbleiche, doch traurig stimmt es auch Franzosen in Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter, man weiß es, Lächeln ist gescheiter, es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen. Es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig blieben von Göttingen, von Göttingen. Es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen, in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen, von Göttingen.
Voilà, d'une Barbara à l'autre, nous retrouvons en compagnie de cette exceptionnelle Barbara qui est face à moi, Barbara Humbert. Vous êtes toujours, bien entendu, sur IDFM dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy. Barbara avec son beau sourire, avec ses yeux bleus qui pétillent de malice. Ils sont verts, ils sont un peu verts, un peu bleus, ils pétillent de malice en tout cas, de gourmandise et de vitalité. Et on l'entend avec sa marinière et son jean, elle a tout de la jeune femme naturelle, svelte toujours. Et, elle nous a dit qu'elle est née il y a 83 ans, et elle attire à elle. Tout le monde, elle attire les hommes, les femmes, les enfants, évidemment. Elle est mère, grand-mère et même arrière-grand-mère.
Deux fois arrière-grand-mère.
Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, Barbara, la colonne vertébrale de votre personnalité ? Je vais vous citer quelques idées. Vous allez choisir tout ou bien me dire non, c'est encore autre chose. Est-ce que c'est le courage qui fait votre colonne vertébrale ? Est-ce que c'est l'abnégation ? Est-ce que c'est le plaisir ? Est-ce que c'est la constance ? Le culte du corps ? Est-ce que c'est le don de soi ? La volonté ? Ou le désir de plaire ? Vous avez le choix et puis vous pouvez tout prendre.
Je pense que je prends tout. Je vais tout prendre, mais je pense aussi qu'il y a un certain goût de l'effort, du dépassement de soi, de ne pas vouloir accepter une certaine faiblesse du corps, une faiblesse aussi du moral. Ça arrive, on n'a pas toujours envie de s'entraîner. Je suis cancer, je suis donc une enfant qui aime bien tout ce qui est douillet, qui aime bien les fauteuils bien profonds, qui aime bien les... Autrefois, on avait des couettes en plume d'oie, tout ce qui est tellement chaud et qui protège, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, au fond, courir...
Pourtant, vous ne vous faites pas de cadeaux physiquement.
Non. Justement, pour ne pas trop m'écouter. Et quand il pleut, il faut s'entraîner, on est dans un fauteuil, oh, ça c'est tellement agréable. Mais après, c'est ma volonté et ma conscience et mon... Oui, comment dire, qui me pousse pour dire non. Non, non, sois plus fort que ce petit cochon intérieur qui te parle, que tu dis, mais non, laisse rester là, c'est tellement agréable, ne t'entraîne pas, donc je dépasse cette faiblesse et je m'entraîne, je vais quand même courir quand il faut s'entraîner pour une course en vue, dans un marathon ou autre.
Vous vous entraînez combien de fois par semaine ?
Ça dépend de la longueur. J'arrive en général à 45 minimum 50 kilomètres. Donc il faut
par
voir.
Semaine.
Par semaine. Donc 3 fois 15 ou 4 fois 12 ou ça, je varie pour arriver à ce montant là.
4 fois par semaine, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente, Barbara.
C'est pour un enfant de l'été comme moi je suis une fille du mois de juillet, l'hiver. Ça, il faut se forcer un peu, il faut faire violence. Moi, j'aime bien la chaleur, et là, avec le refroidissement, là, je crains un peu.
Quelles sont vos meilleures sensations de météo quand vous courez ? Est-ce que vous aimez bien courir sous la pluie, par exemple ?
Quand c'est la plus chaude de l'été, ça me dérange pas du tout. En hiver, j'évite. J'évite quand même. Bon, mais on n'évite pas toujours. On peut être surpris par la pluie. Mais on se protège. Tant qu'on a des vêtements pour que. Mais la pluie d'été me dérange pas du tout. Même si je suis très peu vêtue et mouillée jusqu'à l'os.
Vous avez couru jusqu'à 100 km, les 100 km de Millau. Alors là, c'est sous une chaleur extrême, non?
Non, j'ai couru deux fois les 100 km de Millau pour mes 70 ans et pour mes 80 ans. La deuxième fois, 80 ans, ça me paraissait plus difficile car je ne me souvenais plus des difficultés du parcours qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Mais non, on courait la nuit, donc on commence à 10h du matin, il ne faisait jamais une chaleur écrasante.
Alors, chers auditeurs, auditrices, qui nous écoutez, vous avez bien entendu que Barbara Humbert a couru les 100 km de Millau, la première fois à 70 ans, la deuxième fois à 80 ans. Figurez-vous que 100 km, ça fait quand même des millions de mètres. Ça fait combien?
Faut pas me demander ça, non? Alors, j'ai jamais réfléchi. Alors, je laisse ça à vous, Claude. De faire
ça. Ça fait 100 millions de mètres. Alors, ouais. Donc, c'est énorme. 100 kilomètres. Donc, à partir de 10h du matin.
Oui, il me semble que c'est 10h du matin. Et puis, on va donc. Oui, on fait le marathon. On revient pour le marathon parce qu'il y a des personnes qui font le marathon uniquement qui ne continuent pas à Millau, donc on passe par la salle de fête pour pointer et puis on recontinue vers Sainte-Afrique où est le retour. À Sainte-Afrique, je crois que c'est déjà le kilomètre 31 à ce moment-là. Il ne reste oui, c'est le kilomètre 31 me semble-t-il à Sainte-Afrique et puis après on continue vers le retour.
Oui, alors Vous parliez de la petite fille que vous étiez.
11 kilomètres. C'est pas, ça ne peut pas, ça doit être plus parce que à 50 kilomètres, on passe sous le viaduc de Millau. Et donc, ça doit être 71 kilomètres à Sainte-Afrique. Il ne reste que même pas 30 pour revenir sur Millau.
Voilà, même pas peur. Hein, rien ne lui fait peur. Je vous parle d'un phénomène. Voilà. Je parle d'un drôle de phénomène. Alors, revenons à la petite fille que vous étiez, Barbara. Vous êtes née donc en juillet 1939, évidemment. Vos parents ont connu les deux guerres qui ont évidemment été terribles pour l'Europe au XXe siècle. Quels souvenirs avez-vous gardé de cette enfance en Allemagne? Qu'est-ce qui vous en reste? Qu'est-ce que vous pensez qu'on vous en a dit?
Beaucoup m'a dit pas grand-chose. Je me souviens donc des roulements des avions américains qui passaient par-dessus nous pour bombarder donc les villes comme Karlsruhe ou Munich ou ils n'ont pas bombardé Heidelberg, hein. Heidelberg, c'était la ville où ils voulaient vivre. Donc, c'était très recherché pour les Américains. Heidelberg n'a pas reçu une seule bombe. Mais Mannheim et toutes ces villes autour, Pforzheim, ont été détruites. Et je me souviens de grondements de ces avions. Et là, j'avais très, très peur. Je courais dans la cave. Je me mettais derrière l'escalier dans un trou noir. Dieu sait que j'avais peur du noir. Mais là, je le recherchais pour la protection. Sinon, je me souviens, bien sûr, aussi de Francfort. Ma mère, donc, étant de Francfort, rendait visite parfois à ses parents. Là, je me souvenais de étant dans la cave, dans des lits superposés. Il n'y avait pas de bombardement là où on était, un peu à l'extérieur du centre-ville. Je me souviens du passage à Karlsruhe. Je pense que c'était après la guerre, entre la zone américaine, en quittant la zone française, en allant dans la zone américaine. Donc le français, c'était jusqu'à Forêt-Noire, Pforzheim, oui, tout ça c'était, je ne sais pas, c'était Baden-Baden, tout ça c'était français. Et puis, après, à partir de Karlsruhe, c'était américain. Et là, il y avait des soldats américains qui contrôlaient ou qui contrôlaient pas. Et ma mère, avec nos deux enfants, mon petit frère, 2 ans de moins que moi, elle observait les Américains qui faisaient passer. Et puis, bon, elle allait là. Elle passait pour retrouver ses beaux-parents qui habitaient dans un petit faubourg de Heidelberg et qui étaient complètement démunis de nourriture et de tout. Donc ma mère venait avec ses affaires pour les troquer contre la nourriture pour ses beaux-parents. Ça, je me souviens très bien avoir laissé à la gare de Heidelberg mon petit sac avec des choses précieuses à l'époque, avoir laissé ça dans les toilettes. Et ma mère est retournée du wagon de bêtes où on voyageait pour le chercher. Et je me souviens de cette horrible peur que j'avais que le train partait sans moi. Et je hurlais, les gens m'ont retenue pour que je ne parte pas après ma mère. Elle est revenue sans mon petit sac, mais elle est revenue.
Un souvenir très, très touchant. Votre jeunesse a été marquée par l'Allemagne vivait évidemment avec un sentiment partagé, un sentiment de culpabilité peut-être.
Mon père ne parlait pas beaucoup de mon père est revenu, je crois que c'est en 45. Il est revenu, il a été dentiste. Donc, il a eu la chance de travailler à l'hôpital et de ne pas être au front. Et donc, il n'en parlait pas beaucoup. Il a été traumatisé par ce qu'il avait vu en Pologne. Et je crois qu'il était aussi en Ukraine. Et après, le recul de l'armée allemande et l'avancement de l'armée russe, il ne pouvait pas prendre tous ces gens qui avaient travaillé pour eux. Ils ne pouvaient pas, en sachant très bien qu'ils allaient être fusillés par les Russes. Et c'est ça, mon père est revenu profondément marqué. Je crois qu'il a plus parlé avec mon mari qu'avec nous-mêmes. C'était trop, c'était pour ne pas trop nous perturber, nous traumatiser. Mais sinon, je pense que j'ai eu quand même une petite enfance protégée, d'abord que par ma mère, après aussi par mon père, qui est un homme extrêmement honnête et travailleur et consciencieux dans son travail. Et c'est ça qui m'a donné aussi, j'ai un grand respect du courage de ma mère et de mon père de faire face aux difficultés et je me souviens très très bien de l'occupation française dans notre maison, puisqu'on avait une grande maison, donc on avait toujours de l'occupation française. Et il y avait une ancienne partisane qui habitait chez nous, qui s'est fiancée chez nous avec son Riquet, Henri, mais on l'appelait Riquet, et qui nous donnait des tartines grassement beurrées de beurre, que nous n'avions pas, mais elle avait des mottes de beurre. Donc elle nous tartinait des beurres et on avait des avantages par elle.
Alors, précisément, vous avez un profond attachement à la France. Comment est-ce qu'il est arrivé, cet attachement?
Mais je pense que ça a commencé avec cette occupation qui s'est pratiquement toujours bien passée. Je me souviens aussi d'un jeune lieutenant qui a dû avoir des attaches à la Martinique parce que dans son armoire, il y avait une poupée martiniquaise avec des costumes. Et ça m'a profondément, je n'ai pas oublié, impressionné cette poupée. Et donc, je pense que le bon contact qu'avaient mes parents avec justement cette occupation, ils ont fêté le nouvel an, Noël ensemble, que c'est ça qui a créé donc mon attachement et déjà à l'époque à la France.
Et puis qui s'est concrétisé
qui s'est concrétisé avec mon mari, avec la rencontre en 62, et puis et notre mariage, mariage civil en août 63 et notre mariage religieux en octobre. Non, en septembre. Justement, je suis née le 9 juillet un 9-7 et on s'est marié un 7-9. C'est pour ça que je
façon de retenir les choses. Il se trouve aussi que vous aimez beaucoup l'un et l'autre, votre mari et vous-même, la musique, et notamment cette musique romantique allemande qui est tellement sublime, et notamment de Franz Schubert. On va écouter un impromptu de Schubert. On retrouve Barbara dans quelques instants. Vous êtes bien sur IDFM dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy, et je suis ce soir en compagnie de Madame Barbara Humbert, championne du monde de la course des 24 heures, coureuse de marathon, mais aussi des 100 km de Millau, elle nous l'a raconté, qui n'a pas terminé sa carrière puisque vous avez encore des projets de course. Lesquelles, Barbara?
Mais là, justement, je vais courir samedi prochain une course, un trail d'endurance à Écouen, contre la vie de mon mari, mais je voulais courir pour mon club de Saint-Brice, et puis Saint-Brice Athlétisme, qui n'ont pas de, je crois, pas de participants à cette course-là. C'est le premier trail d'endurance qui est en individuel ou
En équipe,
enfin en plusieurs, en coureurs. Et puis donc moi je fais ça en solitaire, donc on court pendant 3 heures, toujours sur un trajet de 2 km 300, et on fait ce trajet là pendant 3 heures. Il y a pas mal de montées à Écouen, c'est la forêt d'Écouen, mais je voulais faire ça pour mon club et pour aussi comme un dernier ou presque dernier entraînement avant le marathon de Chicago le 9 octobre.
Donc dans quelques semaines, presque dans quelques jours, vous allez être à Chicago pour courir le marathon.
Le marathon, oui. On m'a tellement parlé de Chicago. Alors j'étais à New York déjà en 1999 pour mes 60 ans. Et donc je dis, je vais quand même encore faire une autre course aux États-Unis. Et Chicago étant très connu et admiré, et voilà. Mais je vais encore faire une autre petite course une semaine avant le marathon. C'était la foulée de Gonesse, la Gonessienne, que j'ai fait depuis des années, où je fais des 10 km depuis des années. Et là, mon club participe. Et pour participer avec mon club et pour être consciencieuse par rapport à l'effort du marathon. Je vais faire que 5 km et me donner à fond pour les 5 km.
Voilà, le programme de Barbara, vous le connaissez. Quelques petites courses, dit-elle, et puis le marathon de Chicago au mois d'octobre. Vous nous avez dit comment vous entraînez, donc à 10, 15 km en 4 fois, donc 40 à 50 km par semaine. Mais vous ne nous avez pas dit comment vous vous alimentez. Est-ce que vous avez une alimentation spéciale pour être toujours au top comme vous l'êtes?
Mais j'essaie d'être sérieuse. Et de ne pas trop me laisser tenter par le saucisson sec que j'aime beaucoup et tous les l'apéro français. Il paraît que les étrangers, enfin, je sais par des Allemandes qui viennent en France, sont séduites par l'apéritif. Et moi, j'étais pareil. Et Karl Lagerfeld, à l'époque aussi, il a pris ses rondeurs par tous ses apéritifs. Et il a dit après, plus jamais les apéros que les Français aiment tellement. Et mais moi, je l'aime toujours. Pour moi, c'est plus important que le repas qui suit. Donc, le saucisson sec, je cède de temps à autre, pas trop souvent. Aussi, ce qui pétille, donc j'aime bien. Enfin, le crémant d'Alsace. Nous, on est très. Mon mari étant alsacien, moi, étant né tout près de Strasbourg, à 30, même pas 25 km de Strasbourg, on est très alsacien. On aime le crémant. Mais sinon, c'est quand même les sucres longs plutôt, et puis les salades et les légumes. Peu de viande. Je réduis énormément la viande, ou alors la viande blanche, mais je fais quand même.
Est-ce qu'il y a des interdits?
Mais les interdits, c'est l'alcool, hein, donc il faut réduire l'alcool, c'est ça. Je dis de temps en temps, ou alors la bière sans alcool. Je me permets la bière sans alcool. Et trop sucré et trop salé, enfin ce que tout le monde connaît, ce qu'il ne faut pas faire.
Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être en bonne santé? Bien dormir, bien pas trop manger, pas trop boire.
Bien dormir, c'est un problème. Moi, je me réveille très souvent la nuit. Et donc, le moment où je me rendors, j'ai bien dormi. Je ne me lève pas avant 8 heures, ou ça dépend, 9 heures, mais je me réveille souvent. Le problème, c'est de ne pas retrouver le sommeil après s'être réveillé la nuit. Mais je prends des calmants naturels qui m'aident donc à retrouver le sommeil très vite.
Et on est souvent stressé un petit peu avant les courses. Oh, est-ce que vous prenez une aide pour dormir?
Mais je prends uniquement les calmants naturels, ou alors les mélatonines, donc un comprimé de mélatonine. Sinon, je ne prends pas de somnifères. Mais je suis très stressée, c'est vrai. Je suis très stressée avant des courses. J'étais complètement ne pas anéantie, mais j'avais l'impression d'être un zombie avant les 24 heures. Parce que c'était très nouveau, je ne savais pas comment les entamer et comment j'allais réagir sur 24 heures de course. Mais une fois parti, le stress part. C'est comme, je pense que c'est pour un acteur, au théâtre, donc très stressé avant, ils sont souvent très très malades. Et puis une fois parti, une fois sur scène, c'est passé, on a dit ça y est, c'est parti, on continue, on y va.
J'ose pas vous demander quelle relation vous avez avec la médecine et les médecins. Vous aviez un père dentiste, c'est autre chose. Mais avec la médecine, est-ce que vous allez voir les médecins de temps en temps?
J'ai une fille qui est médecin. J'ai un petit-fils qui est médecin. J'ai une petite fille qui fait la médecine. Bien sûr, j'ai mon médecin traitant que je vais voir régulièrement. Mais ils savent très bien qu'il faut pas me prescrire des médicaments que je suis contre des médicaments qui ne s'imposent pas. Mais donc je ne prends pratiquement rien. Des vitamines. Je prends des vitamines, bien sûr, surtout avant la course. Je ne veux pas dire le pour ne pas faire la pub, mais je prends. Le médecin, ma fille aussi, elle dit de toute façon, tu continues la course. Je sais qu'il faut rien te dire, et donc je te laisse faire.
Effectivement, c'est, je pense, le meilleur médicament qu'on puisse trouver. Votre relation avec la médecine, c'est surtout une relation familiale avec les médecins et la plus éloignée possible avec la médecine pour que la maladie soit éloignée le plus possible.
Mais heureusement, je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de douleur ni dans les articulations ni nulle part. Donc je n'ai pas besoin et je ne peux pas critiquer ou juger les gens qui ont besoin de médicaments parce qu'ils ont une faiblesse du corps. Donc je ne peux pas me mettre à leur place et je ne me permets pas de me mettre à leur place.
Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous entourent là ? Est-ce que votre vie... Toute proportion gardée, évidemment, vous avez 83 ans et vous entraînez 50 km par semaine en courant, c'est quand même relativement rare. Comment est-ce qu'on pourrait adapter ça pour que les gens soient bien dans leur peau, bien dans leur tête ?
Mais je pense que l'effort physique est régulier, tous les jours un peu, ça ne peut être que donné, bénéfique pour le corps et pour le moral. J'ai connu une jeune femme avec qui j'ai fait le marathon d'Oslo, qui a été pendant des années sous traitement, comment dirais-je,
mental, psychiatrique,
qui a complètement combattu son malaise par la course à pied. Elle a commencé à courir par tout le temps, il neigeait, il pleuvait, il ventait, enfin, il faisait un temps terrible et elle s'est complètement guérie comme ça.
Voilà, c'est là aussi...
Elle a réussi à se dépasser des médicaments.
Contre la dépression.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, d'excellents conseils médicaux. Est-ce qu'il y a un moyen pour se dire, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, quel que soit le temps, comme votre amie norvégienne, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, quelles que soient nos dépressions intérieures, quelquefois nos coups de mou. Comment est-ce qu'on peut se forcer ? On se dit quoi, Barbara ?
Oh, mais là, je dois avouer que parfois c'est dur. Quand on n'a pas le moral, ça arrive, comme j'ai déjà dit. Mais il faut pas s'écouter. Il faut voir. Il faut avoir un but. Et quand on s'est posé un but, il faut travailler pour aller vers ce but, pour réussir, atteindre ce but-là. Et là, il faut y aller. Il faut y aller malgré peut-être les petits bobos, les petits ceci, cela, et le froid ou la pluie, on y va. Et il faut pas trop s'écouter. Mais il faut y aller.
Ne pas très s'écouter. Et il faut y aller. On va y aller d'ailleurs avec Brahms. On va aller avec Brahms, lui qui pétille dans tous les villages de Hongrie, et qui nous propose d'ailleurs ces belles danses hongroises que vous avez choisies pour nous faire y aller justement. On y va. Vous êtes toujours sur IDFM dans notre émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy. Et ce soir, nous consacrons cette émission à une forte personnalité, Barbara Imbert. Barbara, dans votre vie de sportive, mais évidemment dans votre vie de mère et de grand-mère et d'arrière-grand-mère, vous rencontrez beaucoup de jeunes. Comment, avec votre longue expérience, pouvez-vous concevoir ce que c'est qu'une bonne éducation? Quelle serait pour vous la meilleure éducation possible pour que les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, deviennent des adultes aussi épanouis que vous?
Ça, c'est très difficile. Ça dépend du milieu social. Ça dépend de la conviction ou de la conception de la vie des parents. Mais essentiel, c'est quand même une certaine discipline, le goût de l'effort, le goût de travail à l'école comme dans la vie de tous les jours. Maintenant, les uns choisissent après le sport, les autres la musique, mais tout ça, on peut réussir uniquement par l'effort, par un entraînement assidu de plusieurs heures, surtout pour les grands sportifs ou pour les musiciens, par jour. Donc, il faut avoir de la volonté de dépassement de soi, la volonté de réussir ce qu'on a commencé, et pour faire aussi plaisir, pour donner du plaisir aux parents et aux autres qui n'arrivent pas à ce niveau-là, mais qui tentent de se dépasser et qui font toujours pour le mieux possible. Et il y a tellement de jeunes et tellement de femmes aussi de mon âge qui ont un courage énorme et dont on ne parle pas, que l'on ne connaît pas, mais qu'on a le droit d'admirer à distance. Et quand si eux arrivent un jour à se faire connaître, de leur apporter du soutien et de l'admiration.
Voilà, donc de l'effort, de la constance, de la volonté et du faire plaisir, du don de soi. Vous courez pour des causes importantes, Barbara, des causes caritatives, notamment pour la lutte contre le cancer du sein, puisque la course des 24 heures que vous avez couru à Brive se faisait au profit de l'association Cassiopeia, qui est une association de lutte et d'aide pour essayer de collecter des fonds pour l'aide à la recherche contre le cancer du sein. Pour vous, ça a du sens, ça, de courir pour une cause?
Mais je me souviens que la première fois, c'était justement la Gonessienne, il s'est toujours pour le cancer du sein. Je me souviens au semi-marathon de Vienne aussi, c'était pour les vêtements propres. Donc pour cette association qui se battait contre le travail des enfants. Et voilà, et avec mon ami journaliste Julien Bigorne, qui est justement à l'origine de ces courses, donc pour des causes et aussi pour les 24 heures, ça enrichit la course et ça donne une motivation. Ça vous aide à tenir le coup quand ça devient difficile. Parce que vous courez pas pour vous-même, ça vient après, vous courez pour cette cause, vous pourrez faire plaisir aux autres pour remplir cette mission qu'on se donne ou qu'on essaye de remplir avec les autres.
Alors, chère Barbara Imbert, vous êtes une femme de corps, si j'ose dire, hein, on le voit avec toutes les courses que vous, les milliers de kilomètres que vous avez dans les jambes. Vous êtes aussi une femme d'esprit avec ce rire, avec cette vitalité, avec vous êtes cette inspiration et ce don de soi, mais aussi, je dirais, que vous êtes aussi une femme de foi. Et j'aurais aimé vous demander, avant de terminer cette émission, ce que cette foi, en quoi elle vous aide à porter cette vie, à rayonner autour de vous.
Mais moi, je suis chrétienne. Je suis surtout chrétienne des évangiles, de l'amour que Jésus a apporté à la religion juive. Donc, cette réforme. Il voulait être un réformateur, il ne voulait pas du tout quitter le judaïsme. Je compare Jésus toujours un peu à Luther, qui voulait uniquement apporter un peu de nouveau au catholicisme, mais il ne voulait pas quitter l'Église. Mais il était poussé en dehors de l'Église, il a donc créé...
Donc ce qui vous plaît, c'est de rénover...
De rénover, apporter du nouveau et de l'amour. Et ce qui est très réjouissant, pendant les courses de longue durée, comme le marathon, on retrouve l'amour parmi les coureurs. Il y en a toujours qui me tapotent sur l'épaule, qui disent « Vas-y, ce courage, tu vas y aller !» Parce que je suis moins rapide que les autres, donc ils me doublent et ils m'encouragent. Et il y a c'est une forme d'amour entre les coureurs que je remarque à chaque fois et qui me donne la force et qui me réjouit profondément et qui me réconforte et qui me donne aussi le courage d'aller plus loin.
Un immense merci, Barbara, de nous avoir reçus pour ce grand moment d'intensité, pour ce moment de joie qui donne envie de marcher, qui donne envie de respirer, peut-être de croire aussi, de courir, de parcourir le monde et de vivre, tout simplement. Un très très grand merci, Barbara Humbert.
Merci à vous, Claude. Merci.
Merci aussi à Francky qui a réalisé cette émission que vous pourrez réécouter en podcast sur la radio idfm98.fr. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre Chiens et Loups. D'ici là, portez-vous bien, courez, marchez, respirez. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM.
Merci à vous, Claude, et à bientôt, à une autre fois.
IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.